1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 11 servira de texte de base pour la prédication ce matin, parce que jusqu'à présent, nous sommes en train de voir la doctrine de l'Église, l'enseignement concernant l'Église, sur comment l'Église doit être structurée, les activités aussi de l'Église, les objectifs de l'Église. Et nous avons vu combien l'Église locale est importante dans le plan de Dieu et que c'est indéniable, indéniable lorsque nous lisons les Écritures, que la vie du chrétien est liée à l'Église. Non seulement le chrétien y a sa place, comme on l'a déjà dit, mais il a des responsabilités. Et nous avons déjà évoqué ces responsabilités et nous sommes en train de voir les moyens par lesquels nous pouvons prendre ces responsabilités, être actifs au sein de l'Église locale. La première des choses que nous avions vues, c'était le fait que, eh bien, lorsque nous avons obtenu la grâce de Dieu, et parmi toutes les bénédictions que nous avons obtenues en ce jour-là, d'abord, le pardon de nos péchés, la vie éternelle, le fait que Dieu nous ait renouvelés dans notre âme, notre esprit, que nous sommes de nouvelles créatures. Il y a le fait aussi que, Dieu ait fait de nous, quoi ? Des sacrificateurs devant lui. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et déjà, rien que cela, ça devrait déjà nous motiver à prendre nos responsabilités dans l'Église et à servir le Seigneur fidèlement. Mais voilà, l'Église, elle est là pour différentes raisons, avant tout pour adorer le Seigneur, mais aussi pour que les chrétiens, à travers le ministère de l'Église, puissent, recevoir l'instruction de la parole sur la vie chrétienne, mais également pour les chrétiens, d'avoir un ministère auprès des autres dans l'Église, auprès des frères et sœurs dans l'Église. Et donc, l'Église, elle est là aussi pour nous pousser à progresser spirituellement dans notre vie. Elle est là pour nous aider à grandir dans la sainteté, à progresser dans l'amour, de pratiquer cet amour agapé, cet amour que Christ nous a enseigné, un amour unique qui vient de Dieu, cet amour qui n'est pas l'amour que le monde connaît, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour qui se donne, qui ne repose pas sur les mérites d'une personne qui reçoit cet amour, qui est inconditionnel. Mais cet amour, nous devons progresser, nous devons préserver également l'unité, donc d'aimer, de pratiquer la justice au sein de l'Église, de manifester la grâce et la miséricorde par le pardon, par l'entraide, etc. Et donc, la grande question, c'était comment pouvons-nous accomplir ces différentes choses dans l'Église. Premièrement, on a vu donc le fait que Dieu a fait de nous des sacrificateurs qui nous permet, chose qui était impossible dans l'ancienne alliance, qui nous permet à nous croyants de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. De pouvoir, par la prière, intercéder directement auprès du Père en faveur des autres. Et cela, déjà, c'est extraordinaire. Mais également, nous voyons dans les Écritures que, le Seigneur n'a pas fait que de nous sauver, il n'a pas fait que de nous appeler saints, de faire de nous des saints, de nous appeler à cette sainteté. Il a également, dans sa grâce, accordé des dons spirituels. Et donc ce passage dans 1 Corinthiens 12, ainsi que d'autres passages, pour moi, il y a quatre passages majeurs qui sont essentiels pour nous aider à comprendre ces fameux dons spirituels et de pouvoir également réaliser cette grâce que Dieu nous fait par ces dons, de pouvoir les employer dans l'Église. Alors, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, sera le passage de base, mais nous en verrons d'autres. Commençons au verset 4. Donc, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Plus loin, au verset 28, nous voyons également que les dons spirituels étaient accompagnés par ces dons Christ avait accordés à l'Église. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, des fonctions dans l'Église. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc 1 Corinthiens 12 est immanquablement un de ces passages sur lesquels on va se baser pour établir la liste de ces dons spirituels. Mais ce n'est pas le seul. Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 12 également, va mentionner des dons. Et on va voir que, en fait, ces différents passages qui énumèrent ces dons ces listes ne sont pas forcément complètes, mais on va voir que chacune d'entre elles vont donner plus ou moins parler des mêmes dons, mais en mentionner d'autres, et vont ainsi se compléter. Donc Romains chapitre 12, versets 6 à 8, nous dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. » Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et puis finalement, encore un autre passage qui se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Et on va commencer au verset 9, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, outre le fait, oui, que le Seigneur ait fait de nous des sacrificateurs pouvant nous approcher de lui, eh bien, il nous accorde également ces fameux dons spirituels pour accomplir, eh bien, nos responsabilités au sein de l'Église locale. Donc, aujourd'hui, oui, on aborde un sujet qui a fait l'objet de nombreux ouvrages, qui a fait l'objet de nombreux articles théologiques, qui a fait l'objet de nombreux débats, et encore aujourd'hui, qui va même jusqu'à diviser beaucoup d'églises par rapport à ces fameux dons spirituels. Et la raison pour laquelle c'est important pour nous également de regarder à ces dons et de bien les comprendre, outre le fait que, eh bien, on sait que ces dons spirituels vont nous aider à servir le Seigneur au sein de l'Église, c'est que Paul, déjà dans ce passage d'1 Corinthiens 12, au verset 1er, il dit une chose importante. Il dit « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors déjà d'une, en tant que chrétien, on ne doit pas être dans l'ignorance par rapport à ces dons spirituels. Ensuite, lorsqu'il écrivit à Timothée dans sa première épître au chapitre 4 et verset 14, il parle à Timothée par rapport à son ministère, par rapport au don qu'il avait reçu, et il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » On comprenons bien que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons donc pas négliger ces dons spirituels, mais que nous devons les employer afin d'accomplir nos responsabilités au sein de l'Église locale. Et pour cela, on va se poser des questions. On va poser 5 questions concernant ce sujet des dons spirituels, et je vous dis d'emblée, nous ne verrons pas toutes ces questions aujourd'hui. D'accord ? Je sais que ça va prendre probablement, on va dire peut-être 2 voire 3 autres dimanches pour qu'on puisse compléter cette étude, cette analyse sur ces dons spirituels. Mais 5 questions qui vont nous aider, je l'espère, à mieux comprendre ce sujet et surtout à embrasser, accepter et employer ces dons spirituels que l'Éternel accorde à ses enfants. Et parmi ces questions, donc, il y aura la question d'où viennent ces dons et comment les reçoit-on ? Quels sont les dons spirituels ? Quel est l'objectif des dons spirituels ? Comment devons-nous les employer ? Comment identifier les dons spirituels dans notre vie ? Et puis la question, et c'est là la question qui divise beaucoup, les dons spirituels sont-ils permanents ? Mais la première question, donc, d'où viennent ces dons et comment les reçoit-on ? Déjà, tout est dans le nom, n'est-ce pas ? Dons spirituels. 2 mots grecs ici sont employés pour les décrire. Le premier, c'est pneumatika, qui fait référence donc à la source de ces dons. C'est spirituel. Ces dons, la source, comme on le voit au verset 11 de notre passage d'1 Corinthiens 12, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Donc ce sont des dons qui viennent par l'Esprit Saint et qui sont accordés aux croyants. Et le deuxième mot ici dans ce passage, c'est « charismata ». Ce mot grec fait donc référence au fait que c'est un don, une grâce, un cadeau de la part de Dieu. Ce que je veux aussi souligner, c'est que ces dons spirituels, tout comme notre salut en Jésus-Christ, sont accordés par la grâce et ne sont pas, pas du tout, basés sur notre dignité à les recevoir, ni même sur nos capacités personnelles. Parce que ces dons spirituels, ce sont des aides extraordinaires que Dieu nous accorde, qui peut permettre à la personne la plus timide d'être la plus courageuse en annonçant l'Évangile. Ces dons spirituels qui permettent même à ceux qui ont des difficultés peut-être à s'exprimer ou à aborder les gens, de pouvoir justement partager la parole. Ce que je voudrais également souligner, c'est que cette puissance qui nous accorde ces dons spirituels, c'est cette même puissance qui, dans le livre des Actes, a permis aux apôtres, aux serviteurs de Dieu, d'accomplir des miracles, mais aussi de prêcher l'Évangile, de les diriger, de les guider là où ils devaient aller. Mais c'est aussi cette même puissance qui nous permet aujourd'hui d'accomplir notre service chrétien au sein de l'Église. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui vous êtes dans une réflexion sur vous-même par rapport à votre vie chrétienne et votre place au sein de l'Église, et que cette réflexion vous amène à penser que vous ne pouvez pas accomplir vos responsabilités au sein de l'Église, que vous ne pouvez pas employer ces dons spirituels que Dieu vous accorde, vous êtes en train, quelque part, de limiter cette puissance du Saint-Esprit. Dans les Écritures, il nous est dit, et c'est même une mise en garde pour chaque croyant, de veiller à ne pas taire le Saint-Esprit, de l'empêcher d'agir dans notre vie. Et lorsque nous sommes dans cette perspective-là de ne pas laisser l'Esprit Saint agir dans notre vie, on va avoir cette réflexion, mais je ne peux pas accomplir ça dans l'Église, je ne suis pas capable de faire cela. Mais Nous devons nous rappeler que derrière ces dons spirituels, il y a l'Esprit Saint. Alors comment peut-on croire également que cet Esprit Saint, qui a été employé pour dans notre salut, pour notre régénération, pour notre sanctification, que ce Saint-Esprit, eh bien, ne nous est pas également accordé ce qu'il nous faut pour vivre pour le Seigneur et servir le Seigneur dans l'Église locale. Alors la question, d'où viennent ces dons et comment les reçoit-on? Ces dons sont une grâce de Dieu, et que l'Esprit Saint va accorder à chacun selon sa volonté, n'est-ce pas? Mais le moment exact de l'obtention de ces dons spirituels n'est pas spécifiquement mentionné dans les Écritures. Là aussi, hein, il y a divergence d'opinion, mais la plupart des théologiens admettent que ces dons spirituels sont accordés au moment de la nouvelle naissance. Parce qu'au moment de la nouvelle naissance, c'est également là où nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est au moment de la nouvelle naissance où nous tous avons été baptisés dans le Saint-Esprit et que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit, eh bien, va accorder les dons spirituels aux uns et aux autres. Mais même si à ce moment-là, eh bien, un don peut être accordé. Force aussi est de constater que, comme dans le passage que nous avons lu, hein, dans l'épître de Paul à Timothée, on a vu que ce don que Timothée avait reçu, il avait été aussi, eh bien, prophétisé. C'est-à-dire que des anciens dans l'Église avaient aussi pu constater que bien Timothée, il y avait quelque chose de particulier, que le Seigneur l'appelait à accomplir quelque chose, et donc ont imposé les mains sur Timothée, et que ce don, alors soit il a été accordé, moi je préfère plutôt qu'il a été révélé, s'il a déjà été accordé par l'Esprit Saint, parce qu'on a un Dieu qui est omniscient, qui de toute éternité connaît toutes choses, et qui a déjà, eh bien, dans sa souveraineté, choisi. Un tel aura ce don et un autre aura ce don. Lui, il aura ses dons, parce qu'on peut avoir un ou plusieurs dons. Mais voilà, Dieu dans sa prescience et dans sa souveraineté, je pense, avait déjà choisi Timothée et avait déjà préparé ses dons pour lui. Mais ce don s'est révélé plus tard dans sa vie. Et je crois que c'est là où beaucoup de chrétiens, eh bien, ont des difficultés, parce que au cours de leur vie, dans leur vie chrétienne, ils entendent parler, ah bien, il y a des dons spirituels. Quel peut être mon don spirituel, n'est-ce pas? Mais avant de répondre à cela, rendez-vous compte d'une chose ici dans ces passages. C'est que tous les chrétiens, tous les croyants, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, hein, qui sont passés par cette repentance et qui ont donner leur vie au Seigneur, hein, pour qu'il nous change, qu'il nous sauve, eh bien, tous les croyants reçoivent ces dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 7. Je ne sais pas si vous avez lu, hein, il y a un petit mot ici. Chacun. Or à chacun. C'est pas or à certains. C'est pas écrit or à ceux qui sont les plus spirituels, à ceux qui sont les plus avancés dans leur vie chrétienne. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et même dans ce passage de 1 Pierre que nous avons lu au verset 10, il nous est rappelé que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun, c'est-à-dire tous, sans exception, chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Donc tous les croyants reçoivent à minima un ou plusieurs dons spirituels que nous devons employer au sein de l'Église locale. Paul nous apprend également que c'est Dieu et non nous donc qui choisit ces dons pour le croyant. Regardez dans Hébreux chapitre 2 et verset 4, là aussi nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui accorde ces dons selon son choix, selon sa souveraineté. Verset 4 nous dit: Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et notez bien, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors déjà, ça va répondre à une question importante. Je l'ai déjà partagé avec certains. J'ai un oncle qui a passé la plus grande partie de sa vie chrétienne à être misérable parce qu'il n'obtenait pas le don qu'il voulait. Il poursuivait un certain don dans sa vie et ne l'obtenait pas. Et il était frustré, presque amer par rapport à cela. Je crois que malheureusement et bien tristement, il n'a pas saisi et compris ce que les Écritures enseignent. Déjà, un, Dieu est souverain. Et ce que nous accorde, dans ses grâces, nous devons les accepter avec joie, parce que c'est une grâce. Et si c'est une grâce, nous n'avons rien que nous puissions faire pour mériter cette grâce. Il n'y a rien que nous puissions faire pour obtenir des dons spirituels parce qu'ils sont accordés selon la grâce de Dieu et selon le choix souverain de l'Esprit-Saint. Alors, peut-être certains d'entre vous, à ce moment-là, vous êtes en train de dire: mais pasteur, là, dans 1 Corinthiens 12, verset 31, qu'est-ce qu'il dit, Paul? Ah, il dit: aspirez aux dons les meilleurs. Est-ce que Paul vraiment est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, eh bien, d'aspirer, hein, d'être à la recherche des dons les meilleurs? Puisque nous avons des responsabilités différentes et certaines des fonctions différentes dans l'Église, nous devons également comprendre et accepter que nous ayons des dons différents. Parce que pour chaque responsabilité, pour chaque œuvre à accomplir dans l'Église locale, il y a un don spirituel pour cela. Et ces responsabilités, ces dons spirituels différents, font justement que nous pouvons nous compléter, n'est-ce pas ? L'image que Paul emploie ici par rapport à l'Église, c'est celui d'un corps, n'est-ce pas? Et il nous rappelle, hein, quand on a un pied qui veut être une main, quand on a une tête qui veut être une jambe, ou je ne sais pas, mais quand on a des chrétiens qui n'acceptent pas le choix souverain de Dieu pour leur vie, ainsi que les grâces qu'il accorde pour accomplir l'œuvre à laquelle il les appelle, eh bien, vous allez être malheureux parce que vous n'êtes pas à votre place, à celle que Dieu a choisie pour vous. Mais il y a ici aussi cette idée chez certains que, voilà, ben, le pied, c'est rien du tout, hein, comparé à la tête. C'est nul, un pied. Mais ça, c'est une perspective humaine. Parce que nous ne sommes pas en train de regarder à l'ensemble de ce que Dieu a créé, déjà par rapport au corps humain, mais à l'exemple qu'il emploie avec pour l'Église, qui est le corps de Christ. Chaque partie de ce corps a une valeur extraordinaire. Parce que, un, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Et deux, parce qu'il a choisi de nous placer dans ces différents rôles. Alors, quels sont les dons les meilleurs, me demanderez-vous? Instinctivement, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut comme don? Les plus spectaculaires, n'est-ce pas? Hein, ceux qui se voient, ceux qui sont ostentatoires, hein, ceux qui peuvent susciter peut-être même l'admiration de certains. Il y a cet instinct chez l'être humain d'être attiré par le miraculeux, par le pouvoir, par la puissance. Et donc la question, c'est, si nous sommes en train d'aspirer à ces dons-là, hein, les dons miraculeux, que sommes-nous réellement en train de chercher? Sommes-nous en train de chercher quelque chose pour notre gloire, notre satisfaction, ou peut-être même notre, entre guillemets, édification spirituelle? une exégèse, c'est-à-dire une analyse hein, grammaticale ici du texte grec au verset 31, apporte, à mon humble avis, une perspective, on va dire, augmentée hein, de ce que Paul est en train de dire ici. Parce que dans tout le chapitre, rappelez-vous, Paul souligne la souveraineté de Dieu dans la distribution des dons et la responsabilité des croyants. Il les exhorte à accepter ce choix souverain dans leur vie et même de se contenter de ce que Dieu a accordé. Et c'est déjà extraordinaire ce qu'il a accordé. Ne serait-il pas contradictoire pour lui de dire maintenant, mais aspirez aux dons les meilleurs? Alors qu'il vient de dire, justement, c'est l'Esprit Saint qui les distribue selon sa volonté. Ça paraît contradictoire, n'est-ce pas? Mais là, encore une fois, comme je disais, quand on regarde à la structure hein, du passage en grec, eh bien, on a une perspective différente sur ce que Paul est en train de dire ici. Hein, le verbe grec « aspirer » ici à l'impératif, c'est « zeloo », qui exprime un désir sincère qui comporte même, quelque part, cette connotation qu'on les qualifierait de négative, telle que celle d'envier, voire même jusqu'à une sorte de convoitise, de convoiter avec jalousie. C'est fort comme terme. C'est fort comme terme. Mais ce n'est pas ici le plus important à souligner. Ce qui est le plus important à souligner ici, c'est que, en fait, les formes ici en grec, les formes indicatives et impératives sont les mêmes. C'est-à-dire que oui, on peut traduire ce verbe par un impératif, aspirer aux dons les meilleurs, mais peut-être aussi traduit par une déclaration, vous aspirez aux dons les meilleurs. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Paul? Mais moi, je vais vous montrer une voie par excellence. Et il enchaîne avec le chapitre 12. Donc ça, déjà, ça donne plus de cohérence à ce que Paul il est en train de dire. Il dit ici donc, vous désirez sincèrement les dons les meilleurs. Et il a souligné combien ça a été problématique pour cette église, une église qui connaissait un désordre comme pas possible. Et cette interprétation, donc, pour moi, semble mieux tenir la route lorsqu'encore une fois, on tient en compte eh bien, le contexte du passage, ce que Paul était déjà en train de dire par rapport à la situation, par rapport aux dons spirituels, que c'est l'Esprit-Saint qui les donne, et que malgré tout ce que nous, on va pouvoir vouloir et dire et même demander, c'est l'Esprit-Saint qui a déjà décidé. Et donc, il semblerait effectivement insensé de la part de Paul de leur ordonner de faire ce qu'ils étaient déjà en train de pratiquer, parce que tous étaient dans cette pratique de ce qu'on appelle une glossolalie, c'est-à-dire l'expression d'une langue inintelligible dont ils n'avaient pas la compréhension ou la signification. Donc Paul, je ne pense pas qu'il était en train de leur dire « aspirez aux dons les meilleurs », mais il était en train de leur dire « vous, là vous êtes en train d'aspirer les dons les meilleurs ». Mais je viens de vous dire, ces dons, c'est Dieu qui les distribue, c'est l'Esprit Saint qui les distribue selon sa volonté. On ne les mérite pas, c'est une grâce. Et il enchaîne donc avec le chapitre 13, où il va montrer donc cette voie par excellence, celle de l'amour, l'amour qui surpasse tous les dons spirituels. Je ne vois pas l'amour forcément comme étant un don spirituel, mais l'amour, qu'est-ce qu'il est? Bon, déjà, Dieu est amour, il nous vient du Seigneur, il nous vient de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22. Hein, le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce qu'on voit parmi le fruit de l'esprit? Il y a l'amour. Et Paul, il est en train de nous dire qu'avant toute chose, nous devrions être surtout en train d'aspirer à l'amour. Un amour plus grand pour le Seigneur et un amour plus grand pour les autres. Donc plutôt que de désespérer à obtenir un don spirituel particulier parce que c'est celui qui nous plaît. Hein, c'est celui qui, ouh, ça c'est intéressant comme don spirituel. Efforçons-nous d'abord de développer dans notre vie l'amour de Dieu. Parce que cet amour-là, quand nous comprenons l'amour de Dieu, hein, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un amour qui n'est pas mérité, c'est un amour qui est inconditionnel, c'est un amour qui va au sacrifice. Eh bien, cet amour-là, lorsque nous le connaissons et le pratiquons, eh bien, nous amène justement à employer ces dons spirituels à leur juste mesure. Croyez-moi, les Corinthiens ici n'avaient pas cet amour. Parce qu'ils n'étaient pas en train d'employer les dons spirituels tels que Dieu leur avait accordé et tels que Dieu voulait qu'ils les emploient. Et on voit un égoïsme dans cette église qui est problématique. Et on voit tous les autres problèmes, hein, des divisions, de la discrimination, etc. dans cette église. Pourquoi? L'amour manquait. Et quand cet amour manque, eh bien, les dons spirituels, on ne va pas les employer. Parce que parmi les dons spirituels que nous allons voir, il y a des dons, croyez-moi, il nous faut avoir cet amour agapé pour vouloir accomplir ce service. Et donc, en outre, si Dieu offre les dons, les meilleurs, entre guillemets, à certains et pas à d'autres, cela ne signifierait-il pas qu'il offre aussi des dons qui sont moins bons? Cela ne nous amènerait pas à voir quelque part que Dieu est en train de favoriser certains chrétiens? Parce que rappelez-vous, c'est une grâce, c'est pas un mérite. Si Dieu accorde les dons les meilleurs à certains et pas à d'autres, il y a un favoritisme, n'est-ce pas? Oula! Romains 12, 11. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Acte 10, 34. Pierre ouvrant la bouche dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Colossiens 3, 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point de favoritisme. Jacques 2, 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors ça nous amène à comprendre une certaine chose ici. C'est que finalement, ces dons les meilleurs ne sont meilleurs qu'à nos yeux. Pas forcément à ceux de l'Éternel. Ces dons les meilleurs, c'est parce que nous nous les qualifions ainsi. Dieu accorde à chacun une grâce et cette grâce n'est pas basé sur du favoritisme, mais sur la bonté de Dieu, sur sa justice, sur sa sainteté. Et donc, dès lors que nous connaissons, nous avons conscience, connaissance du ou des dons spirituels que Dieu accorde, eh bien, il va être de notre devoir, de notre responsabilité, de les apprécier. Déjà les accepter, de les apprécier et de les employer. Donc finalement, on vient maintenant à cette deuxième question. Quels sont les dons spirituels? Dans les passages que nous avons lus, nous constatons deux types de dons et des emplois qui vont être dans des domaines aussi différents. On reconnaît que dans ce que Paul énumère, eh bien, il y a des dons qui sont miraculeux, n'est-ce pas? Et il y a des dons qui ont plus attrait à une capacité, hein, pour accomplir une œuvre au sein de l'Église. Et bien que on fasse cette distinction-là entre les dons spirituels, rappelons-nous que ce sont des dons spirituels et rien que cela. Pour moi, c'est déjà miraculeux, c'est une grâce extraordinaire, encore une fois, que Dieu accorde ses dons à chacun. Parmi tous ces dons, nous retrouvons donc deux domaines d'application, en fait. On voit des dons qui vont aider au ministère de la parole et des dons qui vont aider, eh bien, au service pratique, on va dire, dans l'Église. Revenons à ce passage d'1 Pierre chapitre 4 verset 11. Pierre dit: Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Certains de ces dons, donc, sont liés à la communication, eh bien, de la parole de Dieu, la communication de la volonté de Dieu. Avant de même d'aller aussi un peu plus loin, je veux qu'on note aussi une chose ici, c'est que plusieurs de ces dons sont très proches les uns des autres. Si proches que parfois faire une distinction entre ces dons, c'est un peu plus compliqué. Et bien qu'ils sembleraient être liés hein, au point d'être les mêmes, il y a parfois, oui, des distinctions. Et donc, pour certains dons, oui, je les ai plutôt regroupés ensemble parce qu'ils sont très similaires, mais aussi on va noter que certains de ces dons sont liés, sont presque, je vais dire, presque indispensables l'un à l'autre. On a déjà parler des dons de Christ à l'Église hein, dans Éphésiens 4, on ne va pas revenir là-dessus, parce que pour moi, certains mettent ça avec les dons spirituels, hein, le fait que Dieu ait donné à l'Église hein, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs docteurs. On voit cela comme des dons de Christ, et ce sont des fonctions hein, dans l'Église, mais là, on veut s'attarder plus à ces dons spirituels accordés par l'Esprit-Saint. Et donc, parmi les dons miraculeux, quels sont ceux que nous retrouvons? Alors, tout simplement, l'accomplissement des miracles. Hein, ce don des miracles. Et donc, il s'agissait ici d'un signe qui impliquait l'accomplissement d'événements surnaturels, extraordinaires, qui ne pouvaient être attribués qu'à la puissance de Dieu seul. Que c'est que par la puissance de Dieu que ces miracles ont été accomplis. Et donc, c'est un don, par exemple, qui a été exercé parmi plusieurs, dans le ministère de Paul, par exemple, d'Étienne, ou encore Philippe. Dans Acte 19, versets 11 et 12, hein, par rapport à Paul, il nous est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Donc on voit aussi qu'on a ce don d'opérer des miracles, mais il y a également dans nos listes ici ce don de guérir, hein, de guérison. Ceux-ci sont liés, d'accord? Mais voilà, c'est extraordinaire ce qui a pu être accompli dans le ministère de l'apôtre Paul et comment Dieu hein, a fait des miracles à travers Paul. Étienne également, hein, il nous est dit en Acte 6, verset 8, qu'il était plein de grâce et de puissance, qu'il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Philippe également, hein, au chapitre 8, hein, il nous est dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Hein, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques pardon, et de boiteux furent guéris. On se rappellera également de cet événement où, lorsque Paul et l'équipage du navire qui se rend à Rome fait naufrage et qui prépare ce feu hein, sur la plage et qu'il y a un serpent qui s'enroule autour de la main et on comprend que ce serpent, il s'est attaché, il a mordu l'apôtre Paul. Les autres, ils se disent « c'est bon, il est mort ». Et ils étaient dans l'étonnement qu'ils continuent de vivre. Donc, il y a aussi parmi ces miracles une sorte de protection, hein, d'immunisation. D'ailleurs, je vais dire ça aussi, finalement, au final, il n'y a pas beaucoup de passages qui nous parlent de ces fameux dons miraculeux. Mais à part 1 Corinthiens, hein, et le passage de Romains, les passages que nous avons cités, il y a dans les évangiles, hein, dans Marc chapitre 16, il y a au verset 17, le fait qu'il soit mentionné que les croyants allaient chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, comme Paul l'a fait, immuniser hein, contre les poisons, les guérisons de malades. Et on voit au verset 20 que tout cela, c'était pour confirmer la parole par ces miracles. Donc, ces dons miraculeux hein, de pouvoir opérer d'accomplir divers miracles. Et donc, comme j'ai dit, il y a aussi ce don de guérison qui est également mentionné, qui permettait à un croyant de guérir une personne de sa maladie. On a dans Acte 9, Énée le paralytique, qui a été guéri par Pierre, le père de Publius également, en Acte 28, qui était malade de la fièvre et de la dysenterie, et qu'il va être guéri par l'apôtre Paul. Et ensuite, même tous les autres malades de l'île de Malte vont venir vers Paul pour trouver donc la guérison. L'autre don miraculeux que nous trouvons quelque part aussi, c'est celui de la prophétie. La prophétie, alors il y a quelque chose ici d'important à souligner par rapport à la prophétie. Déjà, le mot prophétie, littéralement, ça veut dire de déclarer avant. Hein, c'est un de ces dons qu'on qualifie un don de parole, parce que il y a une révélation que Dieu accorde à un serviteur de Dieu, eh bien, d'annoncer les choses, c'est-à-dire d'être porte-parole de l'Éternel. Donc, il s'agit d'un discours qui, sous l'inspiration divine, va être apporté par le prophète, où il va déclarer les desseins de l'Éternel, que ce soit en réprimandant eh bien, les injustes, les méchants, ou en réconfortant également les affligés, et en révélant des choses cachées également, notamment en parlant des choses qui sont encore à venir. Quand les prophètes venaient apporter un jugement, ils disaient, voilà, l'Éternel va juger, repentez-vous, comme bon, plusieurs des prophètes, je pense aussi à Jonas quand il était à Ninive, encore 3 jours. Mais bon, c'est surtout donc quelqu'un qui va être porte-parole, qui va eh bien parler, apporter le message que l'Éternel lui a accordé. Donc de déclarer la volonté de Dieu, la vérité de Dieu, annoncer ce que Dieu va faire. Et là encore, donc c'est par le Saint-Esprit que ces prophéties même ont été apportées, même dans l'Ancien Testament, dans la deuxième épître de Pierre, pardon, au chapitre 1er, les versets 20 à 21, sous la fin du verset 21, où on voit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est en cela que je dis, c'est quelque chose de miraculeux, parce que c'est quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Que Dieu, eh bien, se révèle à une personne pour communiquer un message. Là encore, nous sommes tellement attirés par le fait que, oh, ils étaient capables d'annoncer les choses futures. Bon, c'est Dieu qui les révélait, c'est pas eux qui avaient une vision qui était capable de prédire le futur, c'est une révélation que Dieu leur a accordée. Mais ensuite, l'essentiel de leur message, c'était pas forcément d'annoncer les choses futures, c'était de leur dire, là, maintenant, votre situation n'est pas celle que Dieu veut. Changez cela. Donc, la prophétie, elle est liée donc à la parole, à cette communication de la volonté de Dieu. Autre don miraculeux qui nous est donné ici, dans ces passages, c'est celui des langues. Et c'est là aussi il y a beaucoup de confusion parmi les chrétiens sur cette question des langues. Et on va aborder cela, Dieu voulant, un peu plus en détail. Mais déjà ici, je voulais donner certaines informations. Les langues dont il est question ici, lorsque Paul il parle de ces langues, il dit que, bon, déjà, il y a plusieurs langues. C'est la capacité, une diversité de langues, c'est au pluriel. Ça impliquait donc une capacité accordée par Dieu de parler, de communiquer dans des langues qui étaient jusqu'à ce moment-là complètement inconnues de celui qui parlait. C'est-à-dire que, voilà, on pourrait dire, si Adam recevait ce don de diversité de langues, et qu'entre dans notre assemblée une personne qui nous vient du Tibet, et que Adam commence à parler en tibétain, et ainsi communiquer l'évangile à cette personne. Et c'est ça ce don dont il est question ici. Ce don servait également à authentifier donc le message de l'évangile et ceux qui le prêchaient comme venant de Dieu. Actes chapitre 2. Ça, c'est l'exemple de ce don de diversité de langue. Pourquoi? Parce qu'une fois que ces chrétiens qui étaient réunis, ces disciples qui étaient réunis, et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, ils vont dans la rue, et à Jérusalem, en même temps, il y avait cette fête qui avait amené des Juifs de différents pays vers Jérusalem, de différentes nationalités, de différentes langues. Et là, ces disciples commencent à parler dans ces langues étrangères. Alors bien sûr, tous ces pèlerins, ils sont complètement dans l'étonnement. Ceux qui étaient à Jérusalem, ils se sont dit, oula, ils sont complètement ivres, on ne les comprend même pas, nous, ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent qu'ils sont forcément ivres. Mais bon, ils cherchaient une explication, on va dire, plutôt rationnelle à ce qui était en train de se produire. Mais on ne peut pas expliquer rationnellement ce qui se produit quand c'est un miracle qui vient de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et donc cette expression « diversité de langue » et le fait que lorsque ce don est mentionné, il se trouve au pluriel, pour ma part, élimine d'emblée l'idée d'un langage de prière personnelle inintelligible même par la personne qui est en train de l'utiliser, incompréhensible par les personnes autour, parce que ici, ce don de parler plusieurs langues, en toute logique, et par rapport à ce qui s'est passé en acte 2, c'était cette capacité de pouvoir parler dans une langue étrangère, afin de communiquer la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'on a un Dieu Jésus-Christ. Jésus-Christ, comment est-il qualifié par Jean au premier chapitre? Au commencement était la parole. Nous avons un Dieu qui a communiqué avec l'humanité. Et la communication, c'est une personne qui parle, une personne qui écoute, mais voilà, celle qui écoute, elle comprend ce que l'autre est en train de dire. Mais d'avoir une communication où il n'y a qu'une seule personne qui comprend, ce n'est pas une communication. Il n'y a pas de transmission de la pensée qu'on essaie d'exprimer. Il n'y a pas de communication. Mais Dieu voulant, donc, on va élaborer un peu plus là-dessus plus tard. Mais voilà, ces langues, elles étaient aussi également accompagnées par un autre don, c'était celui de l'interprétation des langues. C'est-à-dire que, voilà, la capacité que quand il y avait une personne qui venait ici dans une assemblée, qui parlait une langue étrangère, eh bien, un des frères, des sœurs pouvait traduire cela sans même avoir appris ces langues. Petite parenthèse ici. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, alors que nous avons des églises qui envoient des missionnaires, des évangélistes à travers le monde, dans différents pays, dans différents dialectes, où nous avons des organisations qui sont en train de travailler activement pour traduire et d'enseigner des langues aussi aux uns et aux autres pour que ces missionnaires puissent annoncer l'évangile à travers ces peuples, ne pensez-vous pas que ça serait utile que ce don se révèle là ? Mais il ne se révèle pas. Donc ça, c'est déjà un petit indice de ce qu'on va élaborer plus tard sur la permanence des dons spirituels. Mais abordons également cette question des dons de capacité. On va les mentionner rapidement et, faute de temps, on regardera cela la prochaine fois. Mais il y a la connaissance, la sagesse, le discernement, la distinction des esprits, l'enseignement, le gouvernement, le service, la miséricorde, également l'aide, le secours, l'hospitalité, la libéralité, la générosité, la foi, l'exhortation, l'encouragement. Ça, ce sont des dons qui sont également accordés par l'Esprit Saint à chaque croyant. Nous recevons un ou plusieurs de ces dons, selon la souveraineté de Dieu et son choix pour nous. Et nous allons voir, Dieu voulant, non pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, c'est notre frère Philippe qui apportera la parole. Je serai absent à l'église de Mantes, mais au moins dans deux dimanches, Dieu voulant, nous regarderons à ces autres dons. Mais déjà pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que les dons spirituels sont offerts gracieusement aux croyants par l'Esprit Saint. Et que ces dons spirituels sont accordés à tous les croyants, chacun reçoit un don spirituel de la part de l'Esprit Saint. Et donc ce sont des cadeaux, des grâces hein, que Dieu accorde. Et on a déjà commencé à voir hein, que ces dons spirituels sont différents, mais sont là pour œuvrer ensemble au sein de l'Église, être employés ensemble au sein de l'Église, pour que eh bien, nous puissions être, en tant que ce corps de Christ, ce que Dieu veut que nous soyons. Donc, par la grâce de Dieu, hein, on verra encore donc, la prochaine fois ces différents dons hein, de capacité et peut-être les autres questions que nous allons nous poser sur l'objectif hein, des dons spirituels, comment les employer, comment les identifier, et beaucoup plus tard sur la permanence hein, de ces dons spirituels. Mais j'espère que, bon, déjà, ça a permis de nous donner une meilleure perspective par rapport à ces dons spirituels. Parce que je sais que par rapport et en réaction à ces églises, hein, dans les mouvements pentecôtistes et charismatiques, on est un peu frileux à parler des dons spirituels et de s'avancer là-dessus, que beaucoup de chrétiens, je sais pas c'est quoi mon don, etc., qu'il y a beaucoup de manque de connaissances là-dessus. Mais j'espère que déjà les choses que nous avons abordées, ça a déjà été bénéfique pour vous ce matin, et que ça nous aidera, chacun d'entre nous, à pouvoir servir au sein de notre Église. Prions, s'il vous plaît.